Je vous invite à ouvrir votre Bible au chapitre 26 des Actes des Apôtres, s'il vous plaît. On va lire à partir du verset 17. C'est l'apôtre Paul qui raconte sa conversion devant un très haut personnage, le roi Agrippa. Et il dit dans Actes 26 au verset 17, il dit que Dieu lui a dit, lorsqu'il s'est converti, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Lisons maintenant dans Philippiens au chapitre 2. Premier abord, vous ne verrez peut-être pas le rapport, mais je vais vous le donner tout à l'heure. Philippiens 2, au verset 22, l'apôtre Paul parle ici de Timothée, un de ses collaborateurs. Et il dit de lui, « Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. » Lisons aussi dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 3. Et l'apôtre Jean de dire, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Au verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui, ça veut dire du Seigneur, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Et un dernier texte dans l'Épître aux Romains au chapitre 14. Romains 14. À la fin du chapitre, au verset 23, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Ce soir, j'aimerais, avec l'aide du Seigneur, vous parler de cinq choses. Cinq. qui peut être résumé par ces mots. Conversion, consécration, confession, communion et conviction. Des mots qui se ressemblent, mais qui recouvrent un vaste éventail de pensées, de sujets bibliques. La première des choses, c'est la conversion. La conversion. La conversion, évidemment, est tout un sujet. On pourrait parler de cela pendant, pas rien qu'une heure, mais pendant plusieurs soirées. Dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, on voit, en particulier dans les Actes, un bon nombre de récits de conversion. Plusieurs conversions d'individus. Il nous est dit que les frères se sont réjouis, quand ils ont entendu la conversion des païens. Et on voit dans les Actes des apôtres que certaines personnes se sont converties au Seigneur. Dans le langage courant, on parle de conversion, quelqu'un qui change de religion, qui abandonne une certaine croyance pour en adopter une autre. Mais dans la parole de Dieu, nous apprenons qu'une conversion, selon la Bible, c'est se convertir à une personne, se convertir au Seigneur. À plusieurs reprises dans les Actes, il est question de personnes qui se sont converties non pas à une église, si juste soit-elle, ni à un groupe quelconque de croyants, même des vrais croyants, mais on se convertit au Seigneur. Et dans le premier texte que nous avons lu, lorsque l'apôtre Paul rend son témoignage, il dit la raison pour laquelle Dieu l'a appelé et envoyé. Vous savez que c'était un grand voyageur qui a parcouru l'Empire romain de l'époque, qui couvrait tous les bords de la Méditerranée. Eh bien, il a été converti sur le chemin de Damas pour, comme il le dit lui-même, qu'il ouvre les yeux par l'Esprit de Dieu aux païens, à ceux qui ne connaissaient pas vraiment le Seigneur Jésus, Fils de Dieu, pour qu'il passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan, comme il le dit, et à Dieu, pour qu'il reçoive par la foi le pardon avec tous ceux qui sont sanctifiés, ça veut dire mis à part pour Dieu. Et il résume ensuite au roi Agrippa, il dit en conséquence, donc, tout ce qu'il a fait, bien, en commençant par Jérusalem, dans la périphérie, la Judée, et ensuite partout, qu'est-ce qu'il a prêché? La repentance et la conversion à Dieu. La conversion à Dieu. Toute personne a besoin de se convertir. Les jeunes, les enfants de chrétiens ont besoin de se convertir. Si on n'est pas converti, on est sur un chemin de mort. Et que c'est solennel de penser que tous ceux qui ne se sont pas convertis au Seigneur sont perdus pour l'éternité. On entend assez fréquemment aujourd'hui l'expression « recevoir Jésus dans son cœur » et on se demande des fois si ceux qui emploient ce vocabulaire, sans qu'il soit vraiment faux, réalisent vraiment ce que veut dire une conversion. Une conversion, c'est un changement total de direction. C'est un terme militaire. On s'en va dans une direction et une conversion, dans le sens littéral du mot, c'est faire un demi-tour, s'en aller ailleurs. La Bible enseigne clairement que tout être humain, à cause du péché, à cause de notre nature de péché, qui est incontestable, on ne peut pas contester que l'homme est pécheur, il suffit d'ouvrir la radio, de regarder la télévision, de lire le journal, qu'on voit bien qu'on est dans un monde de corruption et de violence, un monde où le péché abonde. On peut nier le terme, mais la réalité recouverte par ce mot, on ne peut pas la nier. Eh bien, à cause de cela, tout individu a besoin de se convertir, parce que le mal est dans notre cœur, en chacun de nous. Je me rappelle, une fois, j'avais conduit des personnes de l'étranger, de l'extérieur, à Sainte-Anne-de-Beaupré, où il y a tout un sanctuaire catholique, un peu comme Lourdes ou Fatima, vous savez. J'ai demandé à un des pères rédemptoristes, y a-t-il beaucoup de conversions ici? Il ne savait pas trop quoi répondre, il ne savait pas trop quoi dire. Ben, il y a de temps en temps, il y a des buveurs, c'est ils repartent, puis il y a des bonnes décisions de prise, mais c'est plus qu'une bonne décision, se convertir. C'est un changement radical qui commence par l'intérieur et qui s'exprime aussi par l'extérieur. On ne peut pas se passer d'une conversion. Moi, si je suis devant vous ce soir, c'est parce que bien qu'enfant de chrétien, et même mes grands-parents étaient déjà chrétiens, même mes arrière-grands-parents, mais je me suis converti un jour, converti à Dieu, au Seigneur Jésus. Se convertir, c'est reconnaître notre état de culpabilité, qui est évident, qui est évident. Nier le péché, c'est contredire la Bible et contredire l'évidence. Les gens qui ne sont pas d'accord qu'on est pécheur, ça m'est arrivé dans mes visites à travers les années de rencontrer des gens qui ne veulent pas accepter le terme de péché ou le mot pécheur. Alors on leur demande, êtes-vous parfait? Oh non! Ben c'est justement ça. C'est qu'on est justement imparfait parce qu'on commet des erreurs. On doit s'excuser des fois. On a des pensées qui ne sont pas convenables, qu'on n'oserait pas avoir écrites ici publiquement, et bien qu'on n'ait qu'un petit nombre, et bien d'autres choses. On est jaloux, orgueilleux, et on n'a pas besoin d'enseigner nos enfants à faire le mal. On sait bien, quand on en a eu, que ça se développe par soi-même. Donc, nous avons une nature pécheresse, et on est tous pécheurs aussi par pratique. Donc, la première des questions, la première des choses, c'est de s'assurer que moi, personnellement, et chacun de nous doit se poser cette question, suis-je converti? Sinon, on est un inconverti. Un inconverti, c'est quelqu'un qui ne s'est pas converti, et qui est en route vers la perdition éternelle. Parce que le chemin sur lequel nous naissons nous conduit à la perdition. Mais ceux qui se convertissent changent de chemin. Ils ne sont pas différents, ça ne paraît pas beaucoup au début extérieurement, quoique bien vite, ça paraît aussi dans la conduite. La repentance, bien, c'est un changement d'abord intérieur. C'est pas rien qu'un regret. C'est pas rien qu'un regret. C'est aussi un retour à Dieu, la repentance. La repentance, c'est se détourner du péché, reconnaître sa gravité et se tourner vers Dieu. Ainsi, l'apôtre Paul, il a prêché la repentance. La repentance et la conversion à Dieu. Et c'est à souligner encore que la conversion, c'est pas à une église, ni même à une assemblée locale, si juste soit-elle, mais c'est à Dieu qu'on se convertit. Ça veut dire que dorénavant, je veux être en harmonie avec Dieu. Quand j'entends, aujourd'hui, la plupart des montres sont électroniques ou à quartz, alors elles varient pas. Elles marchent ou elles marchent pas du tout. Elles sont à la seconde ou elles marchent pas du tout. Mais à l'époque, on avait des montres mécaniques, comme celles que j'ai encore. Bien, il fallait des fois les remettre à l'heure, parce qu'elles variaient. Alors, je peux entendre le signal officiel de l'heure à une heure à la radio, puis ma montre marque 12h05, mais je peux aussi m'obstiner, puis dire, moi j'ai raison, puis eux ont tort. Mais je vais rester dans l'erreur. Tandis que si je veux être à l'heure juste, moi je dois m'ajuster au signal officiel de l'heure. Ça veut dire, je dois me réconcilier avec Dieu, je dois me mettre d'accord avec Dieu. Et c'est ça un peu la conversion, c'est se mettre d'accord avec Dieu. Qu'importe ce que je pense, qu'importe ce que vous pensez, ce qui compte, c'est que ce que Dieu pense. Et Dieu nous dit que nous devons nous convertir. Ça veut dire nous remettre d'accord avec lui. Abandonner le chemin sur lequel nous sommes venus au monde, qui nous conduit à notre perte éternel, loin de Dieu pour toujours, dans un état conscient de remords, pour être avec lui pour l'éternité. Êtes-vous converti? Ça, c'est la première des questions. La conversion à Dieu. Maintenant, pour ceux d'entre nous qui sommes chrétiens, qui nous sommes convertis, il y a une deuxième étape.
c'est non pas seulement la conversion, parce que sa conversion, c'est un départ, c'est un début. Et l'erreur commise par certains, c'est de regarder la conversion comme un point d'arrivée. Maintenant, je suis converti, ben, je suis sûr d'aller au ciel, puis là, ben, je fais comme je veux. Ça, c'est pas vraiment, même, c'est presque une preuve qu'on n'est pas converti, si on en tient ce langage-là. Une fois qu'on a passé par la conversion, Dieu nous appelle, dans sa parole, à la consécration. Ça veut dire consacrer, ça veut dire rendre sacré un dédiant à Dieu. Rendre sacré un dédiant, une chose à Dieu. On a lu à propos de Timothée qui était consacré. Oui, on a besoin, comme chrétien, d'avancer dans la consécration. Ça veut dire de se rappeler. Non plus une fois pour toutes, parce qu'on se convertit une fois, mais on doit se consacrer continuellement à Dieu, c'est-à-dire se rappeler que nous devons vivre pour celui qui a donné sa vie pour nous. Vous savez, quand quelqu'un est converti véritablement, ça change sa vie, ça doit changer aussi sa mentalité. Et il doit non plus agir comme tout le monde, parce que pour agir comme un chrétien, il faut penser comme un chrétien. Et là, on parle de consécration. Quelqu'un a posé la question, est-ce que c'est possible d'accepter Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, et non pas comme Seigneur? C'est possible d'accepter Jésus comme Sauveur, et non pas comme Seigneur. Un homme qui connaît bien sa Bible a répondu, non, parce qu'il est Seigneur. Incontestablement, il est Seigneur. Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Sauveur, ce Jésus que vous avez crucifié. Jésus, c'est son nom d'homme, et personne dans la Bible l'a appelé Jésus. Toujours Seigneur Jésus, ou Rabbi, ou Rabboni, en hébreu ou en araméen, qui veut dire maître aussi. Il est Seigneur, qu'on le veuille ou non. Le Dieu, je l'accepte comme Sauveur, mais pas tout de suite comme Seigneur. C'est inconsistant, il est le Seigneur. Et vu qu'il est Seigneur, on doit aussi lui consacrer notre vie. Ça veut dire se rappeler qu'il est digne de toute autorité. Il est digne de notre soumission. Nous devons donc progresser dans la consécration. Il y a beaucoup de versets de la parole de Dieu qui nous parlent de ce sujet. C'est juste une petite ébauche ce soir de ce que la Bible enseigne et qu'on peut résumer par ces différents mots. La conversion, la consécration. Il y a besoin aujourd'hui dans notre monde de consécration. L'autre jour, il y a une assemblée, il m'a demandé à Saint-Romuald d'aller parler de l'œuvre évangélique au Québec, à ses débuts. Alors j'ai raconté un peu du début, même de la colonie, parce que j'ai certains livres qui parlent que les premiers Huguenots étaient même les premiers arrivés ici, français, étaient des Huguenots, des croyants, même Champlain, même Abraham Martin, duquel tirent le nom les plaines d'Abraham. Il y a eu la fameuse bataille en 1759. Il était un Huguenot, un croyant. Mais ils n'ont pas progressé pour des questions de convenance, pour avoir plus d'avantages, ils se sont fait catholiques. Mais par la suite, il y a eu des efforts d'évangélisation, puis ensuite j'ai raconté un peu les débuts, quand M. Spriman est venu, ce que je savais, et puis aussi, comme c'était il y a 40 ans, en 1950, quand je suis arrivé à Québec. Et je disais aux chrétiens que, aujourd'hui, il semble qu'on est dans un jour de profession facile. Il y a plus de convertis, mais il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens. Et c'est bien évident, un peu dans tous les milieux, pour un temps. Il manque de profondeur. On laisse entre les mains du Seigneur, et la Bible dit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Alors on ne peut pas toujours juger, mais le fait est que nous avons tous à prouver la réalité de notre conversion par notre consécration. qui va, devant nos frères et sœurs, exprimer le fait que nous sommes sauvés. La consécration. Ça, c'est un domaine où nous avons des progrès à faire. On est converti ou on n'est pas converti. C'est des absolus. Mais la consécration, ce n'est pas un absolu, parce qu'on a à progresser et on n'a pas à, on ne doit pas se relâcher. Donc, la consécration est un domaine que nous devons étudier et dans lequel nous devons avancer. On voit dans le chapitre 12 de l'Épître aux Romains que nous avons à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui nous permet de connaître la volonté de Dieu, qui est bon, agréable et parfait. On voit que ce n'est pas n'importe qui peut discerner la volonté de Dieu. C'est ceux qui sont prêts de se soumettre avec leur corps en faisant la volonté de Dieu. Et pour cela, il faut rejeter, évidemment, les convoitises mondaines, toutes les folies qu'il y a dans le monde aujourd'hui, puis toutes ces philosophies. Nous avons besoin, comme chrétiens, d'avancer dans la consécration. Maintenant, ensuite, on a la confession. C'est important, pour bien comprendre la parole de Dieu, de faire la distinction entre le pardon qu'on pourrait appeler judiciaire de Dieu, le pardon que Dieu, le juste juge, accorde à un pécheur qui se convertit, et le pardon qu'on pourrait appeler paternel, que Dieu accorde à ses enfants. Quand on est sauvé, Dieu pardonne, pour ainsi dire, tous nos péchés, passés, présents et même à venir. Nous avons par lui le pardon, en lui nous avons le pardon de nos péchés. Hein? Dans, chez Corneille, Pierre a dit, quiconque croit, en, tous les prophètes rendent de lui le témoignage de Jésus-Christ, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Il n'a pas dit, ben, confessez-vous. Il a dit, ceux qui croient au Seigneur Jésus ont le pardon de leurs péchés. Et dans l'Épître aux Éphésiens, au premier chapitre aussi, on voit que nous avons le pardon dans le Seigneur Jésus. Nous savons que tous nos péchés sont couverts par le sang de Christ. Mais au moment qu'on se convertit, Dieu devient notre Père. Et pour maintenir sur la terre la relation avec Dieu, nous devons, comme chrétiens, confesser nos fautes. Et ça, c'est très important. Confesser nos péchés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ça, ce n'est pas aux inconvertis que c'est dit, ça. Un inconverti qui veut être sauvé, il ne peut pas confesser tous ses péchés. Même un enfant, disons, 8 ans, pour donner un âge, qui voudrait être sauvé, on ne peut pas lui dire, confesse tous les péchés que tu as commis jusqu'à aujourd'hui, il serait incapable. Et c'est encore pire plus on vieillit, parce que nos péchés s'accumulent et on ne s'en rappelle pas. Mais quand on est chrétien, donc celui qui veut être sauvé, il confesse son état de péché. Le fait qu'il est pécheur, qu'il mérite le jugement de Dieu. Mais quand on est sauvé, on doit confesser le péché en précisant la chose. Seigneur, tu vois, j'ai fait telle chose, puis je reconnais c'est mal. Seigneur, tu vois, j'ai eu telle pensée, je reconnais c'est pas bien. Confesser nos péchés, ça c'est très important, la confession. Si on veut vivre en communion avec Dieu, il faut pratiquer la confession de nos péchés, de nos fautes. Tous les samedis soirs? Non. Tous les soirs? Non. Tous les jours, tout le temps. Chaque fois qu'on a fait une faute, même dans la rue, mentalement on peut le faire. Confesser nos péchés. Dieu ne peut pas être en communion avec ses enfants qui gardent un péché qui n'est pas confessé. Et même on doit parfois dire même nos péchés qui ont été inaperçus de nous-mêmes. Donc, la confession, c'est la troisième chose. Confesser nos fautes, c'est très important. Autrement, on ne peut pas être en communion avec Dieu. En communion avec Dieu, c'est la prochaine étape, être en communion avec Dieu. Bien, c'est jouir de quelque chose en commun, le mot lui-même l'indique, la communion, c'est avoir quelque chose en commun. Quand on est sauvé, on est appelé à la communion avec Dieu. On est appelé à avoir une relation avec Dieu. On est appelé à avoir une communication avec Dieu. Et là, donc, nous avons un immense privilège. quand je pense que moi, pécheur, indigne, qui mérite le jugement, je peux être en relation avec le Dieu du ciel, celui qui gouverne l'univers. J'ai accès à la présence de Dieu. J'ai accès, par la prière, à Dieu n'importe où, n'importe quand. Le jour, la nuit, n'importe quand. Ça, c'est une pensée que nous devons approfondir. Nous faisons partie, comme croyants, de la maison de Dieu. Pas une maison de briques, matérielle, mais une maison spirituelle. Nous sommes, comme dit l'Écriture, gens de la maison de Dieu. Nous sommes l'édifice de Dieu. Et nous avons une relation nouvelle. Toutes sortes d'images que Dieu, de figures, si vous voulez, ou d'illustrations, que Dieu emploie pour nous montrer l'intimité dans laquelle il nous a introduits. Nous qui étions loin, nous sommes maintenant près de lui. Nous qui étions étrangers, nous sommes maintenant dans sa famille, dans sa communion, dans une relation nouvelle. Et on est appelé à le réaliser. Il y a des choses qui sont un fait pour tout croyant, mais qui doivent être expérimentées dans ma vie. Pensez que je suis en relation avec Dieu, que Dieu est intéressé même à des choses presque insignifiantes. Dieu est intéressé à tout ce qui nous concerne et qu'il est en contrôle de la situation, même quand il arrive des choses qui nous perturbent. Quelqu'un a dit, les épreuves, c'est des bénédictions déguisées. On ne les reconnaît pas, on dit, mais que ça se fait que Dieu nous aime, puis Dieu permet ça. C'est logique, ça. Oui, parce que Dieu nous bénit à travers même les épreuves, à travers des contrariétés, évidemment, indépendantes de notre volonté. Je ne peux pas, si je fais du 100 000 à l'heure et puis que je vais m'écraser contre un arbre, je ne peux pas dire, mais Dieu a permis l'épreuve pour me bénir, c'est de ma faute. Mais s'il arrive quelque chose indépendamment de ma volonté, quelque chose que je n'aurais pas choisi, qui me contrarie, qui est même une frustration, je sais que Dieu veut me bénir à travers cela. Je ne comprends peut-être pas tout de suite. J'ai de la peine à saisir cela. Mais je sais que Dieu ne fait jamais d'erreur. Ça, c'est une leçon. Ça prend toute la vie à prendre ça. Ça prend toute la vie. Parce que j'ai été introduit dans sa communion. Et Dieu a des voies envers les siens qui nous dépassent des fois. Mais quel privilège lorsque nous pouvons prendre un moment tranquille puis méditer la parole de Dieu. Dieu nous parle, nous lui parler par la prière et avoir communion avec lui. On est toujours en communion avec Dieu quand on confesse nos fautes, même si on ne le sent pas. Mais d'un autre côté, il y a des moments particuliers où on doit prendre un peu de temps. C'est dur, c'est des fois difficile, vous savez, vous devez en avoir fait l'expérience, de se concentrer. Quand on a toutes sortes d'occupations et de préoccupations, puis qu'on a toutes sortes de choses à faire, puis que là, on veut vraiment prendre un moment tranquille, puis se concentrer sur la parole de Dieu. Ça doit être la joie d'un chrétien. La communion avec Dieu. Des moments intimes où le Seigneur me montre, m'enseigne lui-même sa parole par son esprit. Vous savez, ce qu'on a découvert soi-même dans la parole de Dieu, ce qu'on a lu dans l'Écriture, puis qu'on a été convaincu devant Dieu, ça a plus de valeur même que ce qu'on entend dans les prédications des fois. Parce que ce qu'on a appris soi-même dans l'Écriture, on s'en rappelle davantage. Quelqu'un a dit une fois, j'entends, j'oublie. Je fais, je me souviens. Non, je vois, je me souviens. Je fais, je comprends. J'entends, j'oublie. Je vois, je me souviens. Je fais, je comprends. Ce qu'on fait soi-même, des notes qu'on peut écrire soi-même, des recherches, des petites études avec un cahier de notes, puis on fait une petite recherche soi-même, d'études dans la parole, on comprend mieux et on s'en rappelle encore mieux. C'est important, ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être fidèle aux réunions. Ça ne veut pas dire qu'on n'apprend pas de nos frères et sœurs plus avancés que nous. Pas du tout, au contraire. Mais plus on en apprend par nous-mêmes, plus on en profite aussi des réunions, souvent. Donc, on est appelé à avoir des moments de communion. Et j'ai oublié quelque chose, je voulais déboucher sur les convictions avec ce que je viens de dire, mais j'ai oublié de dire aussi qu'à propos de la confession, c'est que quand on a confessé une faute au Seigneur, on a commis une certaine chose pas correcte, on est conscient que c'était mal, on le confesse et Dieu les a pardonnés. Ça arrive, ça. Si ça vous est arrivé, vous n'êtes pas tout seul. Ça arrive. Parce que le diable a pour but de nous accuser et de nous attrister, d'amoindrir notre témoignage. J'ai raconté l'histoire d'une jeune fille qui avait commis une certaine chose, puis elle a confessé son erreur, son péché, puis elle avait toujours encore un sentiment de culpabilité qui lui revenait des moments, puis elle savait que c'était pas de Dieu, parce qu'elle avait confessé sa faute. Elle savait que ça venait du diable, de Satan, l'accusateur. Alors un jour, elle a dit comme ça, elle dit, « Satan, dis-le à mon avocat. Dis-le à mon avocat si j'ai fait quelque chose de mal. » Son avocat, c'est le Seigneur Jésus, c'est l'autre, c'est celui qui nous défend devant Dieu. Alors, quand on a confessé une faute, qu'on est sûr que Dieu nous a pardonné, parce qu'on prend la parole, si nous le confessons, il est fidèle et juste pour nous pardonner, et nous purifier, pardonner parce que c'est une offense à la justice de Dieu, purifier, c'est une souillure face à la sainteté de Dieu, et on sait qu'on est pardonné. Alors, on peut simplement conclure que la culpabilité vient de Satan, qui veut nous attrister pour nous enlever notre joie. Et on ne doit pas l'écouter. C'est pour ça qu'on a dit, il ne faut jamais douter de notre foi, puis il ne faut jamais croire nos doutes. Jamais douter de notre foi, ce qui est sur la parole de Dieu, mais jamais douter, jamais ajouter foi à nos doutes. Jamais croire nos doutes et douter de notre foi. Ensuite, le dernier mot, c'était donc des convictions. On a vu tout à l'heure donc qu'on doit lire la parole de Dieu, on doit la méditer, on doit la connaître, en vue d'avoir des convictions. Une conviction, c'est une certitude raisonnée, quelque chose qui, au point de vue chrétien, est vraiment basé sur la parole de Dieu. Il y a trop de chrétiens qui ont simplement des opinions. Ils pensent que, moi j'ai pour mon dire, comme disent les Québécois, moi j'ai pour mon dire que, moi je pense que, mais ça, ça n'a pas tellement de valeur. Une conviction, c'est vraiment une croyance, la foi, basée sur ce que dit la Bible. Une conviction, la foi dans la parole de Dieu. Et on a besoin aujourd'hui d'être, nous, des hommes et des femmes de conviction. À tout point de vue, on l'a lu dans l'Épître aux Romains, c'est vrai que dans le contexte du chapitre 14, c'est pour des choses qui sont ni bien ni mal en elles-mêmes. Il y a des choses qui sont pas mal, mais qui peuvent devenir mal par l'abus dans certaines choses. Par exemple, c'est bon de manger un bon dessert, mais si je me sers 8 ou 10 fois, ça commence à être pas mal d'abus, hein, puis de la gourmandise. Alors, vous voyez, il y a des choses bonnes qui peuvent devenir mal. C'est surtout pour ces choses-là qu'il parle de tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction. Mais c'est vrai au point de vue général aussi. On peut bien étendre le principe. Nous avons besoin d'être des hommes et des femmes de conviction. Dieu voulant, demain, on parlera un peu de certaines choses qui concernent l'Assemblée et pour lesquelles nous avons à avoir des convictions. Ça veut dire à être certain que ce que nous croyons et ce que nous cherchons à mettre en pratique, parce qu'on est encore imparfait dans notre mise en pratique de la parole, puisqu'on veut vraiment, la ligne où on se dirige est vraiment basée sur la parole de Dieu. Des convictions solides, fermes. J'ai souvent dit, les convictions, elles sont comme un niveau, parce que la Bible, elle change pas, et la Bible, elle paraît comme un niveau, elle donne toujours une ligne parfaitement horizontale, tandis que les opinions humaines, vous savez comme elles changent. Il n'y a qu'à voir la religion autour de nous. On ne veut pas dire de méchantes choses contre nos compatriotes, le voisinage, mais il faut reconnaître que la religion a terriblement changé depuis une quarantaine d'années. Parce que c'était rien que des opinions humaines. Tandis que des convictions basées sur la parole de Dieu, elles ne changent jamais. Et nous devons avoir des convictions. Tant qu'à notre témoignage personnel, tant qu'au monde qui veut nous entraîner loin de Dieu, il y a bien des choses dans la parole de Dieu pratiques qui concernent notre manière d'être, notre manière de penser, où nous devons avoir des convictions solides, solidement basées sur la parole de Dieu. Et aussi, pour l'assemblée locale, il y a des chrétiens qui viennent à l'assemblée, mais si jamais ils s'adonnent à aller ailleurs, ben ça leur fait pas de différence que d'aller dans n'importe quel groupement. Maintenant, on ne dit pas de choses méchantes sur personne, mais c'est un fait qu'il y a bien des chrétiens qui n'ont aucune conviction solide, basée sur les Écritures. Ils sont là parce qu'ils ont été peut-être sauvés, convertis par le témoignage de chrétiens qui allaient dans une assemblée réunie au nom du Seigneur Jésus, mais ils ne savent pas vraiment pourquoi. Alors, on est certainement... c'est triste, c'est pas normal, puis on blâme pas quelqu'un qui est nouvellement converti, mais au fur et à mesure qu'on avance, on doit baser nos convictions sur la parole de Dieu. Pour ça, ça prend du temps, ça prend un peu de peine. Il faut vraiment lire, méditer la parole de Dieu, examiner, réfléchir, prier, demander au Seigneur de nous montrer sa pensée, sa volonté, clairement définie dans la parole de Dieu. La Bible nous dit tout qu'on doit savoir. Pas tout ce qu'on voudrait savoir, c'est une différence. Pas tout ce qu'on voudrait savoir, mais tout ce qu'on doit savoir pour se conduire dans ce monde selon la pensée de Dieu, la Bible nous dit tout. Elle est parfaite. Il n'y a rien à y ajouter. Alors, c'est avec ça que je termine. Rappelez-vous de ces mots qui résument donc le court message ce soir. Conversion, indispensable. Plût à Dieu que nous soyons tous convertis. Converti à Dieu. Conversion, consécration, dans laquelle nous devons progresser. Confession de nos fautes, communion avec Dieu qui débouche sur des convictions solides, basées sur la parole de Dieu. Prions maintenant.
J'ai vu il y a bien des années, une pensée qui m'est revenue. En chantant le cantique qu'on a chanté tout à l'heure, dans le ciel, dans le ciel. Quelqu'un a dit, un peu de foi dans votre cœur vous amènera au ciel, mais beaucoup de foi amènera le ciel dans votre cœur. Et vous, un peu de foi dans le cœur vous amène au ciel, c'est vrai ça, mais beaucoup de foi amènera le ciel dans votre cœur. Je pense que c'est assez bien exprimé parce qu'il dit dans l'Épître aux Colossiens, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut. Plus vite, plus on se réjouit du ciel, plus on va évidemment apprécier le Seigneur Jésus aussi. Ce matin, j'aimerais vous inviter à lire d'abord dans l'Évangile selon Luc au chapitre 22. Luc 22. Au verset 19. Ensuite, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est livré.
dans 1 Corinthiens chapitre 11. Première épître aux Corinthiens chapitre 11e, un texte bien connu parmi nous, au verset 23. L'apôtre Paul dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Maintenant, un dernier passage dans la première épître de Pierre. Pierre, chapitre 2. Au verset 4. Pierre 2, 4, approchez-vous de lui, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Au verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Jusque-là. Le but ultime de l'évangélisation, c'est de faire avec des pécheurs des adorateurs. Faire de prendre des pécheurs dans ce monde et de faire d'eux une maison spirituelle, un saint sacerdoce, pour offrir des victimes spirituelles, ou comme c'est traduit dans la version Darby, des sacrifices spirituels, c'est-à-dire des sacrifices spirituels en contraste avec les sacrifices d'animaux de l'Ancien Testament, où on offrait des animaux purs en holocauste et un sacrifice. Aujourd'hui, Dieu recherche des sacrifices spirituels, le fruit des lèvres qui confessent, qui bénissent son nom. Et c'est ce dont l'apôtre Pierre ici nous parle. Il parle de deux aspects du sacerdoce au verset 5, un saint sacerdoce pour offrir des victimes spirituelles, et au verset 9, on a lu, un sacerdoce royal. Avec le saint sacerdoce, nous fait entrer dans la présence de Dieu pour offrir des sacrifices d'adoration, présenter à Dieu la personne de son Fils dans toutes les perfections de son être. Et ensuite, sortir dans le monde, c'est le sacerdoce royal, et apporter la bonne nouvelle. C'est évidemment une référence, ou pour ainsi dire, à l'arrière-plan de ses pensées, il y a l'Ancien Testament, où les sacrificateurs entraient dans la présence de Dieu
dans le lieu saint, puis ils offraient l'encens sur l'autel d'or ou l'autel des parfums dans le tabernacle. Et ensuite, comme on le voit dans Nombre chapitre 6, ils sortaient vers le peuple pour le bénir de la part de Dieu. Comme nous, la première des choses, comme croyants, c'est d'entrer dans la présence de Dieu, de lui apporter nos hommages, notre adoration, nos actions de grâce, et ensuite, on sort dans le monde pour apporter la bénédiction. La bonne nouvelle, quand on annonce l'Évangile, on offre la bénédiction de Dieu, ça veut dire que ceux qui acceptent l'Évangile seront bénis éternellement, comme ceux qui le refusent, à l'inverse, vont être maudits éternellement, perdus, loin de Dieu, réprouvés. Donc, d'abord dans la présence de Dieu, entrer pour ensuite sortir dans le monde et apporter le message glorieux de l'Évangile, qui est aussi centré sur la personne du Seigneur Jésus. Dieu cherche des adorateurs. C'est ce que le Seigneur Jésus a révélé, non pas à Nicodème, un docteur de la loi, on pourrait dire un théologien, mais à une femme samaritaine. Il lui a révélé que le Père cherche des adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Ça veut dire pas par des choses matérielles, visibles, sensuelles, mais spirituelles. Dieu est esprit et il recherche une adoration qui corresponde à la nature de son être. Ça veut dire spirituel, non plus comme dans l'Ancien Testament. Et pour cela, l'apôtre Pierre dit que nous sommes appelés à être une maison spirituelle au chapitre 2 de Pierre, où on a lu au verset 5. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Dans l'épître aux Éphésiens, l'Église, c'est l'Église que Dieu construit, tandis que là, c'est plutôt l'Église restée à la responsabilité de l'homme, former une maison spirituelle où on offre des sacrifices à Dieu. C'est la première chose, parce que Dieu, on le voit dans la parole, veut être le premier servi. Il y a beaucoup d'endroits dans l'Écriture où l'on voit que l'adoration, le culte qu'on rend à Dieu, a la priorité. Dieu d'abord. Au début de la Bible, on le voit, dans la loi, les premiers commandements, c'est d'abord nos devoirs envers Dieu, même dans la prière qu'on appelle dominicale, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, Dieu d'abord. Quand ils sont revenus de la captivité, les Juifs, après avoir été en Babylonie, bien, qu'est-ce qu'ils ont reconstruit dans le temps de Néhémie et d'Esdras? D'abord l'autel, d'abord le lieu de culte, ensuite les murailles, la protection contre les ennemis. Très importante aussi, quand ils ont construit la muraille avec la truelle d'une main puis l'épée de l'autre, c'est aussi important, mais c'est d'abord le culte, ça veut dire l'adoration de Dieu. Dieu d'abord, même avant le service d'autrui, même avant l'évangélisation. C'est important d'évangéliser, très important, notre témoignage, mais Dieu d'abord. Dieu veut être le premier servi. Et notre service chrétien dans le monde doit dépendre de l'appréciation que nous avons de son Fils, le Seigneur Jésus. Et ce matin, j'aimerais justement dire quelque chose à propos du souvenir du Seigneur Jésus, le mémorial de la personne du Seigneur Jésus. Le repas du Seigneur, c'est un mémorial, c'est-à-dire une mémoire, un souvenir. On se souvient de lui. Et on présente à Dieu la personne de son Fils. On exprime devant Dieu ce que nous avons trouvé dans la personne de son Fils bien-aimé. Dieu trouve ses délices dans son Fils. Imaginez-vous, représentez-vous, on pourrait dire, quelqu'un sur cette terre qui a été parfait dans tout ce qu'il a fait. Pas seulement dans ce qu'il a fait, dans tout ce qu'il a pensé. Ses pensées, déjà, étaient toutes pour la gloire de son Père. Il pouvait dire par l'esprit prophétique, « Je me suis toujours proposé l'Éternel devant moi. » Toutes ses pensées étaient orientées vers Dieu. Dès le matin, comme il dit aussi par le prophète, dès son réveil, ses pensées étaient vers Dieu. C'était pour lui une nourriture de faire la volonté de Dieu. Toujours, en tout temps, sans jamais faillir, sans jamais manquer, il a accompli la sainte volonté de Dieu. Et non seulement cela, mais il était venu pour accomplir l'œuvre de notre salut. Et c'était toujours devant lui aussi qu'il devait donner sa vie pour nous, pour les pécheurs. Et il est monté à Jérusalem, sachant ce qu'il attendait. Il a vécu une vie parfaite, né pour les autres, vécu pour les autres, mort pour les autres, entièrement pour Dieu. Sa vie était un parfum de bonne odeur qui est monté devant Dieu. Et Dieu aime à ce que nous nous occupions de lui, de celui qui a fait sur cette terre ses délices, pour l'adorer, pour nous occuper de lui, entièrement de lui. Ça, c'est le culte. Ça, c'est l'adoration en privé aussi, dans notre vie personnelle, dans notre temps de recueillement, mais aussi lorsqu'on est réunis, surtout autour des symboles. Je vais vous raconter une petite histoire qui vient pas de moi-même, que j'ai lue, qui illustre ce que c'est que vraiment l'adoration que nous devons rendre à Dieu. Supposons un homme qui marche au bord de l'eau, de l'eau profonde. Il tombe à l'eau. Il ne sait pas nager. Alors il crie, « au secours, je me noie !» Ça, c'est la prière. Puis c'est une prière qui vient du cœur. L'individu sait bien qu'il va se noyer. Alors c'est un exemple d'une prière sincère qui monte de son cœur, qui exprime un vrai besoin. Prier, c'est demander. Alors cet homme crie au secours, « Sauvez-moi, je me noie, au secours !» Et voilà que passe à cet instant un homme bien habillé qui, sans hésiter, saute à l'eau. Et lui, il se bien nagé, et il est à même de ramener le pauvre désespéré sur le bord de l'eau. Alors l'autre, qui savait bien qu'il était voué à une mort certaine, parce que l'eau était profonde, il ne savait pas nager, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il remercie son bienfaiteur d'avoir eu le courage de braver le danger et puis de le repêcher. Il l'amène sur l'autre l'amène sur le bord de l'eau, et puis le rescapé, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il le remercie. Et nous aussi, nous sommes appelés à remercier Dieu, comme cet homme, du fond du cœur. Mais merci, monsieur, vous avez été si bon de me délivrer, de me repêcher, d'être mon sauveteur. Pensez pas, du fond du cœur, il le remercie. Ça, c'est remercier. Nous, on remercie Dieu. Mais on fait plus que remercier, on rend grâce. Savez-vous ce que c'est la différence entre remercier puis rendre grâce? Bien, on dit merci à quelqu'un qui nous rend un service. Je vais au magasin, j'achète quelque chose, je passe à la caisse, je dis merci, mais je ne rends pas grâce. Rendre grâce, c'est remercier dans le sentiment de mon indignité. Je remercie Dieu, oui, mais je lui rends grâce, parce que je lui remercie dans le sentiment de mon indignité. Je ne mérite pas ce qu'il a fait pour moi. Nous ne méritons pas ce qu'il a fait pour nous. Je rends grâce à Dieu. Alors cet homme, il remercie. Mais voilà que, pour continuer l'histoire, l'autre sort son portefeuille, il sort sa carte d'affaires, puis il lui donne sa carte, il dit, j'aimerais, monsieur, en parlant à ce rescapé, que vous veniez souper chez moi demain soir. Mais l'autre, il est tout étonné, il s'assure que le monsieur, le bienfaiteur, le sauveteur, s'assure que l'autre est reconduit en sécurité chez lui, et en regardant la carte, le pauvre type, il dit, mais c'est dans le plus beau quartier de la ville, l'adresse. Je suis invité à souper chez ce monsieur dans le plus beau quartier de la ville. Je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est ici à Montréal, je ne sais pas si c'est autrement, je pense. En tous les cas, il était invité là. Et puis quand il se rend le lendemain soir, quasiment un château où il est invité. Une des plus belles résidences du quartier. Puis il dit, quand je pense, c'est cet homme-là qui m'a sauvé de la mort certaine. C'est un petit peu tremblant, il sonne à la sonnette, et puis un domestique qui vient répondre, en grande tenue. Il le fait rentrer, et immédiatement, le monsieur en question, le sauveteur, arrive, très gentil, très aimable, et puis le met tout de suite très à l'aise, malgré qu'il est dans une résidence de quelqu'un tout à fait millionnaire, tout à fait quelqu'un de tout à fait de la haute classe, de la haute société, d'aristocrate. L'autre le met très à l'aise et puis il rentre à la salle à dîner et puis se trouve devant une table garnie, quelque chose qu'il n'a jamais vu de sa vie. Et puis un couvert, un service. Puis l'autre, ce monsieur-là, engage une conversation captivante. Un homme qui a voyagé, qui est instruit dans toutes sortes de domaines. Enfin, notre ami, qui a vu la mort de près, mais il est émerveillé de ce monsieur-là, il n'y en revient pas. Tout ce que cet homme-là lui raconte, il est captivé par la personne de son bienfaiteur. Alors voyez-vous, pas pour une minute, il oublie que s'il est vivant ce soir, c'est à cause de l'autre qui lui a sauvé la vie. Il n'oublie pas une seule minute que s'il est vivant, c'est à cause que ce monsieur a bravé la mort pour lui, qu'il l'a repêché alors qu'il était en train de sombrer dans l'eau profonde. Mais là, il ne pense plus à ça. Il n'oublie pas, mais ce qui le captive, c'est la personne de son hôte. Celui qu'il a invité est un type extrêmement intéressant. Il y a toutes sortes de récits à lui raconter. Il y a une conversation, mais des plus captivantes. Quand il voit l'ordre de sa maison, ses serviteurs, mais il n'en revient pas que de penser que cet homme-là est assez bon pour lui-même risquer la mort pour lui, et puis en plus, pour l'inviter chez lui. Alors le Seigneur Jésus a fait plus que ça pour nous. Il n'a pas risqué de mourir. Il est effectivement mort à ma place. Et chacun de nous, sauvé par la grâce de Dieu, peut dire, il est mort pour moi. Mais plus que ça, nous sommes appelés maintenant à être captivés, si j'ose dire, par cette personne. Pas pour un moment, j'oublie qu'il est mort à ma place, mais il y a plus que ça, il y a sa personne même qui m'intéresse. Comme le monsieur tout à l'heure, il est tellement intéressé par tout ce que cet homme est, et par tout ce qu'il a à lui dire, et tout ce qu'il a fait. Bien, c'est la même chose, ça c'est l'adoration. C'est plus que dire « Merci Seigneur, tu m'as sauvé », c'est sûr on dit ça, mais c'est beaucoup plus que ça, on est intéressé à sa personne. Et le Seigneur Jésus de dire « Faites ceci en mémoire de moi ». Pour se souvenir d'une personne, évidemment, il faut l'avoir connue, on ne peut pas se rappeler de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il faut le connaître. On a dit que le Saint-Esprit, c'est la mémoire du chrétien. Il faut être occupé de lui pendant la semaine pour avoir quelque chose à dire de lui et à méditer sur sa personne le dimanche matin. Il faut qu'on soit rempli de lui pour avoir aussi des cœurs et des bouches remplies de sa personne le dimanche matin. On doit s'occuper de lui pour avoir quelque chose à penser à propos de lui, et pour les frères, quelque chose à haute voix à dire de lui. Mais la véritable adoration, ce n'est pas seulement ce qui se dit à haute voix, c'est ce qui monte de nos cœurs, de nos esprits, devant Dieu. La mémoire, c'est une faculté que Dieu nous a donnée, qui nous permet de retenir ou de se rappeler de choses qui ont déjà produit une impression sur nous. Il y a des choses dans la Bible, on est mieux de ne pas s'en rappeler. Dans les Proverbes, il nous dit qu'on doit oublier les offenses. Quand quelqu'un nous a blessés, puis qu'on a réglé l'affaire, qu'on s'est pardonné mutuellement, ben on doit oublier aussi les fautes. Mais il y a des choses desquelles nous devons nous souvenir, desquelles on doit se rappeler. Et vraiment, à propos du Seigneur Jésus, on doit se rappeler de lui. Se rappeler de sa personne. Se rappeler déjà de sa naissance miraculeuse. On a chanté ce matin pour débuter « Roi couvert de blessures ». Il est né roi. Avez-vous déjà pensé à ça? Il n'y a jamais personne d'autre qui est né roi. L'héritier de la couronne d'Angleterre, il est né, il est prince, il n'est pas vraiment roi, il peut ne jamais être roi. On est fils de roi dans ce monde, même du point de vue littéral, physique. Puis, par la suite, on peut devenir roi si on est dans une famille royale. Mais lui, il est né roi. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il est né roi, parce qu'il était roi. Il est le roi des rois. Et il va être adoré comme tel. Alors, sa naissance miraculeuse, son humiliation. On a dit, le Seigneur Jésus, il vient du sein du Père, jusque dans le sein de la Vierge, pour aller finalement dans le sein de la Terre. Quel chemin! Le sein du Père, il a dit, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître, pour aller dans le sein de la Vierge Marie, dans son incarnation. Quel abaissement, quelle humiliation! Puis il a dit plus tard, de même que Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre, dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme doit être 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre.